Merci d'abord de m'avoir invité et puis merci parce que déjà j'ai appris énormément de choses avec Nicolas Postel-Vinet, donc j'ai déjà pour ma part en tout cas gagné ma journée. Donc je vais reprendre ce qu'il a dit, mais en moins bien et surtout en insistant sur l'aspect qui a été laissé de côté intentionnellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un contexte qui n'est pas le soin ou qui n'est pas encore le soin. C'est-à-dire, évidemment, on est tous des malades en puissance, si on reprend la formulation de Knock, mais qu'est-ce qui se passe quand, en tout cas, les paramètres de la médecine personnalisée ne s'appliquent pas à un individu malade. Donc, je vais essayer de vous parler de cette médecine 4P, et pour mémoire, la médecine 4P, ça veut dire prédictive, préventive, personnalisée ou plutôt de précision, et puis participative. Donc c'est une médecine qui a pour caractéristique, on l'a déjà vu, un réseau d'identification et de surveillance de multiples paramètres biologiques de l'individu. Et quand je vais parler de paramètres biologiques, évidemment, il y aura les exemples de la génétique, mais je crois que l'imagerie médicale ou des biomarqueurs ou des paramètres physiques comme la tension artérielle sont tout aussi importantes dans ce réseau de surveillance. Et une des caractéristiques, c'est que classiquement, l'autorité, c'est le pouvoir de l'État. Et là, on est clairement dans un transfert à des sociétés privées d'un certain nombre de collectes de l'information. On y reviendra. Et ça met en tension, puisque c'est là où va être la question éthique. Ce qui ressort de l'espace médical, alors j'avais mis dans l'abstract pouvoir médical, mais à écouter Nicolas Postel-Vinet, je pense qu'une des tensions, c'est qu'est-ce qui ressort de l'espace médical ou de l'espace de la santé, et qu'est-ce qui ressort de l'espace de l'individu dans une espèce de consommation des corps qu'on pourrait avoir. Alors, il va de soi que pour le médecin que je suis, que Nicolas est, la notion de médecine personnalisée, c'est un pléonasme, parce qu'on imagine mal une médecine qui ne serait pas personnalisée. Il y a toujours eu, au départ de tout acte médical, le colloque singulier entre le patient, et j'insiste sur ce terme de patient, et le médecin, et il y a toujours là une démarche personnalisée, la démarche vis-à-vis d'un patient, et la démarche même du médecin. Alors, pour essayer de commencer à avancer, on peut aller vers l'utilisation d'un traducteur. Vous prenez Personalized Medicine, vous regardez ce que ça donne sur un traducteur, et vous voyez que ça se traduit en automatique par médecine orientée vers le patient. Ce qui pourrait sous-entendre que, jusqu'à maintenant, on a une médecine qui ne serait pas ou qui ne serait plus orientée vers le patient. Et on peut se demander effectivement si une certaine forme de technicité ou si l'illusion de la technicité nous aurait fait, un certain temps, perdre de vue le patient derrière la maladie. Et ça reprend ce qu'un de mes maîtres, qui s'appelait Abit Boll et qui était aussi un cardiologue, disait dans nos conférences d'internat quand il nous disait « La médecine est un art qui meurt et une science qui naît ». Le résultat naturel de la méthode qui a fait depuis 2 siècles le succès de la médecine, c'est-à-dire la médecine expérimentale de Claude Bernard qui a donné ensuite la médecine basée sur l'épreuve, est-ce que son résultat, c'est de nous faire perdre le patient derrière le malade? Et le processus actuel qui tend à une classification des maladies par leur fondement, donc en termes de biomarqueurs ou en termes de variants de susceptibilité génétique ou de variants d'influence de susceptibilité génétique, peut donner à croire 2 choses. Une illusion que nous saurions tout. Alors ça, c'est la notion juste abordée peut-être dans la première diapositive qui était l'illusion techniciste à partir du moment où on peut mesurer ce que l'on sait, sans se poser la question de savoir ce que l'on sait. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il suffit de mettre un chiffre sur une information, sur une sur une donnée quelconque, enfin, sur une quelconque évaluation, pour que justement ça devienne une donnée, pour que justement ça devienne un résultat, pour que justement on croit qu'il y ait, il y a du sens parce qu'il y a un numéro. Et ce que je vous propose, c'est en fait de revenir à une discussion que Michel Foucault a déjà dans Naissance de la clinique, quand il analyse le fait qu'en parallèle, au cours du XIXe siècle, quand la science cherche à rendre le corps du patient transparent pour essayer d'avoir accès à sa souffrance et à la cause de sa souffrance, il associe l'ordre du discours aux méthodes qui sont mises en ordre avec ce discours. Et de fait, je crois qu'on ne peut pas dissocier la pratique scientifique ou la pratique médicale qu'on va avoir aujourd'hui du contexte politique, politique au sens large, ça veut dire du contexte économique, du contexte des pratiques de consommation qui se font. Foucault analyse les structures du discours et du langage en nous indiquant qu'à travers le nouveau discours, on a un basculement. Il nous dit à un moment, cette nouvelle structure est signalée par le changement infime et décisif qui a substitué à la question « qu'avez-vous ?», qui inaugurait au XVIIIe siècle le dialogue du médecin et du malade, par cet autre, où nous reconnaissons le jeu de la clinique et le principe de tout son discours, « où avez-vous mal ?». Donc là, je vous ai fait une citation extraite de Naissance de la clinique de Foucault. Tout au long des deux siècles qui viennent de s'écouler, il fallait se sentir malade pour être malade et savoir où on avait mal pour orienter le médecin dans sa démarche diagnostique. Et je crois que les choses ont changé, alors je vais dire à partir de la Seconde Guerre mondiale, on pourra le discuter tout à l'heure. Mais pour moi, il y a le changement de paradigme, il est avec les grandes études d'épidémiologie et de santé publique, par exemple l'étude de Framingham sur les risques cardiovasculaires, qui étudiait quand les gens peuvent être considérés comme étant malades, n'étant pas malades, mais étant à risque de devenir malade. Et je crois que la tension artérielle est exactement ça. Bon, il y a évidemment un certain nombre de cas où l'hypertension est telle que les gens sont objectivement malades, ils ont des symptômes, des acouphènes, des maux de tête, des choses comme ça. Mais en règle générale, dans les... Donc j'ai entendu un tiers de la population mondiale et 10% justifient d'une consultation spécialisée. Ça veut dire que 90% des autres sont avec des chiffres tensionnels anormaux, donc qui constituent un risque cardiovasculaire à terme, mais qui n'éprouvent aucun symptôme qui les amènerait chez un médecin, hors du fait d'avoir pris systématiquement les paramètres tensionnels. Donc, en l'occurrence, on est là devant ce que Michel Foucault caractérise aussi comme un changement d'objectif de la médecine expérimentale. Toujours dans Naissance de la clinique, Foucault dit « La médecine ne doit plus être seulement le corpus des techniques de la guérison et du savoir qu'elle requiert, elle enveloppera aussi une connaissance de l'homme en santé, c'est-à-dire à la fois une expérience de l'homme non malade et une définition de l'homme modèle. Dans la gestion de l'existence humaine, elle prend la posture normative qui ne l'autorise pas seulement à distribuer des conseils de vie sage, mais la fonde à régenter les rapports physiques et moraux de l'individu avec la société où il vit. » Et plus loin, pour ce basculement, il dit qu'il y a basculement d'une médecine qui s'intéressait plus à la santé qu'à la normalité, vers une médecine qui s'intéresse à la normalité plus qu'à la santé. Et c'est son interprétation, c'est la mienne, de voir l'essor de la physiologie au XIXe siècle par des grands Français comme Magendie, Bichat, Claude Bernard, et la naissance de la médecine scientifique. Donc, moi, j'ai l'impression qu'à cette diarchie un peu caricaturale, il faut aussi ajouter ce qui apparaît aujourd'hui hors de ce qui est strictement la santé, ou le health en anglais, qui est dans ce passage de la normalité à la normalisation, la sphère générale du bien-être et le fait qu'aujourd'hui la santé n'est plus au fond qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui est le bien-être de la personne. Alors, évidemment, si on prend la définition de l'UNESCO de la santé, comme c'est un bien-être matériel, physique et moral, la santé, c'est tout. Mais on ne peut pas prendre la définition de l'UNESCO comme critère de ce qu'on entend, nous, par santé. On entend, nous, par santé, le besoin de soins pour une maladie réelle et pas seulement un bien-être généralisé. Donc, la question qu'on est amené à se poser, c'est le fait de savoir si les progrès des technologies, en particulier des biotechnologies, nous permettraient maintenant de contrôler notre normalité en temps réel. Et on voit partout, Nicolas Postel-Vinet disait que depuis un an, on ne pouvait plus ouvrir un magazine ou entendre une radio sans entendre parler de ça, on entend partout que dans un avenir proche, et obéissant à une idéologie de la promesse qui est évidente, nous pourrions suivre online notre état de santé grâce à un alias numérique informé à chaque instant de ce que nous faisons. Et nous pouvons déjà, alors, lire dans la séquence d'ADN un certain nombre de facteurs de susceptibilité, enregistrer les paramètres du corps numérique. Alors, il y a eu une liste qui a été présentée. Dans un exercice de prospective où j'étais à Bruxelles pour un exercice pour les années 2025-2030, il était question de pouvoir mesurer dès aujourd'hui 400 paramètres physiologique avec les fameux textiles, gilets intelligents, avec un certain nombre de capteurs. Vous savez, le fameux grain de riz qu'on peut avaler et qui va faire une imagerie du transit intestinal et au passage mesurer un grand nombre de paramètres du microbiome. Bon, c'était un exercice de prospective. Mais ce sont des technologies qui existent déjà. On peut faire du génome en cellule unique, donc le microbiome, on pourrait même imaginer des analyses directement. Ça a déjà été évoqué, la question des objets connectés qui vont permettre d'être en relation directement avec ça. Je lisais il y a quelques jours, je vois que on s'alimente beaucoup à la lecture du Monde, mais c'est vrai qu'on picore pas mal d'informations comme ça. Donc il y a quelques jours, il y avait un article sur le lancement de la montre connectée d'Apple. Il prévoit d'en vendre 14 millions dès cette année. Et donc je ne sais pas quel nombre de balances connectées qui sont vendues, mais je pense que si vraiment Apple vend 50%, et donc ces 14 millions de montres connectées, ça représenterait 50% du nombre de montres connectées qui seraient vendues en 2015 dans le monde. Et évidemment, toutes ces montres connectées sont équipées de tout ce qui a été listé depuis le nombre de pas, le nombre de battements de cœur, la consommation de calories, etc., qu'on fait à chaque instant. Même si, effectivement, il y a une touche qui fait que cette montre connectée peut ne l'être qu'à votre smartphone. Entre guillemets, ça ne transmettrait pas les données au-delà de votre smartphone. Ça vous les transmettrait à vous-même sur votre smartphone. Mais enfin, comme l'ensemble de votre smartphone est accessible en temps réel à votre pourvoyeur Internet ou à l'entreprise qui vous a vendu le smartphone au moment où vous avez activé votre smartphone, vous avez accepté que l'entreprise qui vous l'a vendu soit en permanence connectée à l'appareil, entre guillemets, pour voir s'il marche bien. De toute façon, dès que c'est sur votre smartphone, c'est déjà dans le cloud. Alors, de fait, tout un corps numérique est en train d'apparaître. Je ne fais que redire ce que Nicolas a déjà dit. Et je ne fais que redire ce que quelques illustres prédécesseurs ont dit. Axel Kahn, qui m'a illustrement précédé comme rédacteur en chef de Médecine Science, disait dès 1990, parlait avec la médecine déjà numérique dès 1990, d'une médecine instrumentale unique. Donc il y voyait toute la positivité de ce que ça allait apporter. Et Claude Le Pen voit déjà la disparition des ingénieurs, enfin un certain nombre de nos collègues, la disparition des médecins, pardon, un certain nombre de nos collègues sont comme ça, et l'émergence d'un ingénieur qui gère une maladie dont les malades ne sont que les supports. Donc là, vraiment, on a une vision techniciste de la prise en charge du phénomène, entre guillemets, pathologique, qui élimine complètement le patient pour ne plus voir que le phénomène lui-même à travers les données numériques qui sont pourvues par ça. Il ne s'agirait pas, à coup sûr, d'une médecine de la personne, mais bien d'une technologie médicale adaptée à chaque état distant de la norme présenté par un individu. Alors, une fois qu'on a dit ça et que je vous l'ai présenté dans des termes qui, évidemment, sont destinés à vous faire, entre guillemets, un peu peur et à braquer un peu les choses, la question qu'il faut se poser, c'est « Mais pourquoi est-ce que je le prends comme ça ? Pourquoi je vous le présente comme ça ? Que pourrait-on raisonnablement reprocher à un objectif qui est d'éviter la maladie ou à un objectif qui est de délivrer le bon traitement au bon sujet, au bon moment ? Franchement, quel rabat-joie que de vouloir critiquer ou mettre en question même un tel objectif. Cet objectif final est censé nous offrir une meilleure santé, est censé réduire les coûts globaux et particulièrement peu efficace dans un certain nombre de maladies, des fameux blockbusters ou du one fits all. One fits all, ça veut dire une molécule ou un traitement convient à tout le monde. On sait que ça ne marche pas bien, on sait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, on sait qu'il y a énormément de gaspillage, les gens jettent 30, 40, 50% des médicaments, observent plus ou moins bien à cause des effets secondaires, il y a énormément de maladies iatrogènes, etc., etc. Donc, allons gaiement vers cette bonne médecine, qui est simplement une bonne pratique. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi se poser la question inverse, parce que cette médecine adaptée à l'individu, bah, non seulement aujourd'hui elle n'existe pas, mais si on commence à y réfléchir, elle a un coût qui est colossal. Donc non seulement on ne va pas faire d'économie, mais on va au contraire être obligé de mettre en place une infrastructure, éventuellement aidée par le numérique, mais une infrastructure qui n'existe pas aujourd'hui et qui est extrêmement lourde dans certains cas à mettre en place, pour arriver réellement à faire un système à la carte. On se rend compte que les coûts aujourd'hui explosent à cause du fait que, grâce aux nouvelles techniques, grâce au fait qu'on suit les nouvelles techniques, bon, il y a des choses simples, prendre la mesure de sa tension, ça ne coûte rien. Enfin, ça coûte le geste que fait le patient pour prendre la tension. Mais si on prend une pratique comme des échographies cardiaques pour suivre une insuffisance cardiaque, si on prend des pratiques comme les IRM cérébrales pour suivre la progression d'une tumeur cérébrale, ou le monitoring de marqueurs génétiques qui signalent la récurrence de la tumeur, bah, c'est des examens utiles, mais nouveaux, qu'on ajoute, et on ajoute cela au fait qu'on transforme des maladies aiguës, dont les gens mouraient rapidement, en particulier un certain nombre de cancers, en maladies chroniques, dont les gens vivent beaucoup plus longtemps. On doit s'en féliciter, on soigne mieux les gens, mais on ne pourra jamais dire qu'on va faire des économies alors qu'on fait vivre ces gens plus longtemps avec beaucoup plus de soins qui vont les entourer pour les traiter mieux. Et comme on va les traiter mieux, on va les faire vivre encore beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus d'examens de surveillance. Donc, s'il y a bien une chose dont je suis absolument convaincu, c'est qu'on va vers des explosions du coût de la santé qui représente déjà 20% à peu près du PIB dans nos pays développés. Et on voit que dans ce coût, et même à ce tarif-là, il y a des choses qu'on n'arrive pas à prendre en charge. On n'arrive pas à prendre en charge de façon indépendante des laboratoires pharmaceutiques la plupart des études d'essais cliniques dès que ça arrive en phase 3. Et on ne parle même pas des suivis post-AMM quand on veut faire de la pharmacovigilance sur des grandes échelles. Là, les coûts s'explosent tellement qu'on ne sait pas comment arriver à le faire pour réellement repérer la question. Je peux vous l'illustrer aussi avec des sujets que je maîtrise mieux, comme par exemple la médecine régénérative en utilisant des cellules souches. Bon, une des grandes mythologies du moment, c'est de dire, ben c'est formidable, on va prendre une cellule de peau, on la reprogramme grâce au système d'induction à la pluripotence, puis on la redifférencie pour en faire un neurone pour greffer dans le système nerveux ou une cellule cardiaque, puisque Nicolas Postel-Vinet travaille à l'HEGP. C'est à l'HEGP, alors non pas avec des cellules souches pluripotentes, mais avec des cellules embryonnaires induites pour devenir des cardiomyocytes, qu'il y a quelques semaines, un premier malade a été greffé. Bon, c'est formidable. C'est évidemment, le chercheur que je suis est émerveillé par cette possibilité, plus tout le concept, tous les concepts qui sont derrière. Mais en termes de coût, c'est un coût, et en termes de coût pour arriver à des cellules de grade clinique qui peuvent être utilisées chez des patients. Ça se chiffre en millions d'euros. Et compte tenu du fait qu'on le ferait patient par patient si on devait le faire, on ne peut pas, et du nombre et du temps de manipulation que ça demande, on ne peut pas imaginer une diminution des coûts d'échelle, sauf à tout robotiser la chaîne, ce qui nous repousse au moins à 10 ans, voire plus. Donc ça veut dire que même dans ce contexte-là, il faudra plutôt avoir recours à ce qu'on fait aujourd'hui pour le sang de cordon, c'est-à-dire, oui, faire des cellules souches pluripotentes induites, enfin, ou induites à la pluripotence, mais on sait que, grosso modo, avec 60 000 haplotypes, on couvre les besoins de la population française, c'est à peu près ce qu'on met en banque pour le sang de cordon, compte tenu du fait qu'on est tous différents, mais on est tous quand même très proches les uns des autres en termes de carte d'identité immunologique. Et donc, oui, il y aura probablement le développement d'une biobanque qui mettra à disposition ces 60 000 haplotypes différents, mais il faudra trouver des solutions économiquement viables et qui ne seront pas personnalisées à l'échelle de l'individu, qui seront plutôt stratifié à l'échelle de population. Et si vous regardez la réalité des choses, vous vous rendez compte que la voie royale de la médecine personnalisée, il y a très très peu d'acteurs du secteur économique qui veulent l'emprunter. L'industrie pharmaceutique est très réticente parce que, pour l'instant, ce qui l'a fait vivre, ce sont les blockbusters et ce sont les médicaments qui marche pour un grand nombre. Alors, bien sûr, pour les biotech, les maladies rares ou des médicaments de niche sont une source, mais ce n'est pas le mainstream de l'industrie pharmaceutique. Si vous regardez les assureurs, tout le système prudentiel, ils sont très réservés parce que aujourd'hui, dans le contexte de cette médecine, il faut faire ce qu'on appelle du théranostic, donc on a des tests compagnons qui sont associés à la mise en place des traitements. Donc tout ça, ça coûte d'abord très cher, et puis il y a des tests qui vont accompagner les traitements dans le cadre de la pharmacogénétique et tout ça, et les assureurs ne sont pas enthousiastes, et pour l'instant ont beaucoup de mal à calculer quel retour sur investissement, quelle rentabilité ils pourraient faire. Les associations de patients pourraient être la force motrice, mais à part quelques associations type lutte contre le VIH ou quelques maladies rares, vous ne voyez pas d'associations de patients pour des grandes maladies, comme le diabète par exemple, qui sont présentes dans ce champ. Et puis, dernier acteur qui pourrait être promoteur, c'est les organismes de réglementation ou l'administration d'État. Et là encore, vous voyez que devant cette nouvelle complexité Il y a quelques éléments de textes réglementaires qui ont été présentés dans les diapositives de Nicolas Postel-Vinet. Les agences d'abord s'interrogent et cherchent à savoir comment ils vont réglementer un tel cas, comment des agences nationales vont pouvoir intervenir dans un champ qui est largement international si on parle des transferts de données par le corps numérique. Et donc, on se rend compte que là, on a plutôt un vaste espace de questionnement où tout le monde se demande quand est-ce qu'on y va, si on y va, qui doit payer, comment on doit payer, si on reste dans un système d'État-nation, si on passe à des échelles plus internationales, et si même l'acte médical reste au centre de ce questionnement. Parce qu'on est plus dans la notion de mise sur le marché et de normes que dans la notion réellement de prise en considération de la santé. Et donc, en fait, moi, la constatation que je fais, c'est derrière une apparente prolifération réglementaire qu'on a dans l'encadrement de la santé, on assiste, en fait, à une vaste déréglementation liée aux usages. Et on le voit, par exemple, avec ce qui n'est pas le médicament, mais, par exemple, le procédé de soins. Je m'aventure sur des terres où Nicolas Postel-Vinet pourra corriger mes erreurs, mais si je ne me trompe, le procédé de lutte contre l'hypertension qui consiste à éliminer certaines innervations de l'artère rénale a été validé parce que l'appareil qui permet ça a obtenu des normes CE, donc des normes qui disent qu'il n'est pas toxique, qu'il ne va pas exploser dans les mains ni du médecin ni du patient, mais que les données cliniques qui montrent que c'est un vrai traitement de l'hypertension ont été largement contestées, même si maintenant c'est un procédé qui est vendu par une des plus grandes sociétés de bioélectronique internationale qui en fait la promotion de façon large. Donc, on a là un champ de questionnement. Et vous voyez que tout ça, je l'ai fait en gardant cette tension sur « mais pourquoi est-ce qu'on refuserait une voie aussi promise, aussi prospère ?» Et je n'ai même pas parlé des questions de l'individu, du style « le droit de ne pas savoir » ou la possibilité pour les individus de faire de la résistance cognitive ou physique. Bon. On n'a toujours pas interdit la consommation de tabac alors que ça fait 70 000 morts par an. Donc ça montre qu'on a beau avertir les gens de toutes les façons qu'ils veulent, non seulement ils continuent à fumer, mais on les laisse continuer à fumer. Donc il y a tout un champ aussi qui est le champ de la résistance des individus à la notion même de santé publique ou à la compliance. Et j'avais lu des chiffres terrifiants, je ne sais pas, Nicolas, si vous avez les mêmes données, mais que la non-observance de certains traitements, et en particulier dans le champ de l'hypertension, pouvait aller jusqu'à 50% de non-observance ou de mauvaise observance des traitements. Les gens, on leur prescrit un médicament, ils ne le prennent pas, ou ils le prennent un jour sur deux, ou ils arrêtent de le prendre quand ils sont en vacances. Enfin, c'est un champ aussi énorme. Alors, pour revenir à cette question de la médecine des 4 P ou de la pratique de la médecine dite personnalisée à l'âge de la consommation, pour reprendre et paraphraser un rapport qu'avait fait le Nuffield Council en 2010 et qui s'appelait « Ethics of Personalized Care in a Consumer Age », le Nuffield Council avait identifié 5 grands chapitres de tensions éthiques que posent les questions de la médecine 4P. Le premier qu'elle avait identifié, c'était le droit à l'information. Donc, quand je parle de tension éthique, je parle toujours de cette question d'évaluer les avantages et les risques. Je ne suis pas en train de dire ceci est bien, ceci est mal. Ça, ce n'est pas les questions d'éthique. Les questions d'éthique, c'est d'identifier les termes d'une tension et d'essayer de voir comment, dans un espace public, on vit avec ces tensions et on arbitre entre ces tensions. Donc, premier point qu'avait identifié le Nuffield Council, le droit à l'information. Quels sont les avantages et les inconvénients de la mise à disposition du grand public des différents tests qu'on a évoqués ? S'il s'agit de tests génétiques, par exemple, mais aussi, Nicolas a déjà évoqué, par exemple, ces tests d'autodiagnostic de la maladie d'Alzheimer qu'on trouve en ligne. J'ai vu ça au Canada, et les gens sont très friands de ce genre de tests en ce moment en Amérique du Nord. Alors, comme d'habitude, en tout cas, ce que je vous demande de faire à chaque fois, et ce que Nicolas a déjà fait dans ses diapositives, on peut s'interroger sur la validité de ces tests. Donc, même avant de s'interroger sur leur intérêt, s'interroger sur leur validité. Je crois que dans la chaîne de décision, il y avait la pertinence qui était une étape, et puis la validité ou la validation de ces tests qui était une autre étape. Alors, d'un côté, une meilleure information des personnes. Donc, on valorise là le P de participatif. Et cette meilleure information, on espère qu'il va y avoir, du coup, une meilleure prise en charge, plus précoce, meilleure observance, etc. Et un meilleur... Et que, avec cette démarche, on a aussi, dans le contexte général de l'éthique, un meilleur respect de l'autonomie de la personne. Et puis, si on fait de la prévention, peut-être un meilleur usage des deniers publics. Mais de l'autre côté, on a l'immense risque de la compréhension des résultats. Alors, on a entendu qu'il y avait des systèmes, des logiciels et des travaux qui étaient faits pour permettre aux gens de comprendre le plus facilement possible et puis pour leur suggérer d'aller rapidement voir un médecin s'ils ne comprennent pas. Mais on sait que dans d'autres espaces, et en particulier en Amérique du Nord, ce type de réserve n'est pas du tout de mise. Moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, d'avoir vu sur une chaîne câblée d'Atlanta la publicité pour Myriad Genetics qui mettait sur le marché le test de dépistage des mutations dans les gènes de susceptibilité au cancer du sein BRCA1 ou BRCA2. Donc il faut savoir que parmi les cancers du sein liés à une mutation BRCA1 ou BRCA2, ça représente environ 2 à 3% des cas de cancer du sein. Mais la publicité disait simplement « Vous avez toujours voulu savoir, maintenant vous pouvez. » Donc, effectivement, 98% des gens qui allaient faire ce test, qui coûte quand même toujours aujourd'hui 3 000 $, 98% avaient un test qui revenait négatif ou positif pour eux, c'est-à-dire vous n'êtes pas atteint d'une mutation BRCA1 ou BRCA2. Enfin, ça ne veut pas dire que les femmes qui ont fait ce test n'auront pas de cancer du sein, puisque ça n'a screené que pour 2% et pas pour les 98% autres. À côté de ça, l'autopalpation ou le fait d'aller voir au moins tous les 2 ans son gynécologue dépiste beaucoup mieux les 98 autres pourcents. Bon, après, on peut discuter la mammographie, le nombre de faux positifs, etc. Mais c'est un autre débat. On pourra revenir dans la discussion. Donc la question fondamentale, c'est de revenir à cette idée, au fond, que derrière la démarche ultra-technologique, on reviendrait à une démarche en fait fondamentalement déterministe, parce qu'on aurait été capable d'identifier la cause d'une maladie, bon, par exemple pour un cancer du sein BRCA1, le cancer serait d'origine génétique, il pourrait être prédit, à partir de là, on peut repérer. Alors, j'ai bien aimé en anglais, il y a la différence entre screening et puis, mais j'ai bien aimé, je ne connaissais pas ce mot de repérage utilisé en français. C'est un excellent mot. Donc, est-ce qu'on fait du dépistage ou est-ce qu'on fait du repérage? Bon, ben, effectivement, je crois que l'exemple de la maladie d'Alzheimer est une maladie, est un exemple tout à fait typique de la tension qu'il peut y avoir entre repérage et dépistage. D'un côté, aujourd'hui, vous pouvez, grâce à des mesures sur la phosphorylation de la protéine Tau et son rapport avec la protéine amyloïde, ou grâce à de l'imagerie cérébrale utilisant un marqueur qu'on appelle le PIB, vous pouvez mettre en évidence le processus biologique plusieurs dizaines d'années avant l'apparition du moindre symptôme. C'est des données qui nous viennent de grandes familles dans lesquelles, à cause d'une mutation, ou dans l'amyloïde, ou dans des gènes qu'on appelle la presénéline, on sait qu'un jour ou l'autre, les gens seront malades. Et donc, on sait que dès l'âge de 20-25 ans, on peut mettre en évidence les plaques amyloïdes et l'inversion du rapport tau-phosphorylé sur bêta. Et donc, la première chose qu'on peut dire, c'est « mais tout ça ne sert à rien, parce que il n'y a rien à faire aujourd'hui pour prévenir la maladie d'Alzheimer ». Et puis arrivent derrière des données qui nous disent non. Ça a été d'abord une donnée anglaise et puis ça vient d'être confirmé en France. L'incidence de la maladie dans une classe d'âge entre 60 et 70 ans est en train de diminuer. On s'attend à des grandes vagues de patients Alzheimer, mais là on voit une incidence qui est en train de diminuer. Et l'incidence, elle est en train de diminuer parce qu'on est avec des classes d'âge qui ont une réserve cognitive et qui ont un niveau d'éducation beaucoup plus important que les classes d'âge précédentes. Et on est avec des populations dont les comorbidités, c'est-à-dire les maladies qui sont associées ou qui favorisent l'évolution de la maladie comme l'Alzheimer, en particulier l'hypertension, l'hypercholestérolémie, la prévention d'autres risques ont été prévenus. Donc on voit que les gens vont faire, c'est pas pour ça qu'ils vont pas faire de maladie d'Alzheimer, ils vont probablement la faire, mais quelques années après. Vous savez que quand on fait des autopsies post-mortem, on trouve des plaques amyloïdes dans plus de 50% des cerveaux qui sont autopsiés. Ce qui veut dire qu'en fait, si on vivait tous 120 ans, probablement on ferait tous un jour ou l'autre, probablement. Je m'avance beaucoup. Mais en tout cas, la maladie d'Alzheimer sera avec une incidence beaucoup plus importante. Mais aujourd'hui, on n'a aucun marqueur de l'évolutivité, sauf cette réserve cognitive, ou sauf la prévention des comorbidités sur laquelle on peut faire quelque chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour prévenir l'hypertension ou pour prévenir d'autres comorbidités, il n'y a pas besoin de faire une imagerie cérébrale. Il suffit de le faire en population générale et de toute façon, c'est bon pour l'Alzheimer, mais c'est bon aussi pour la prévention des maladies cardiovasculaires et tout ça. Donc vous voyez qu'on est exactement dans cette tension éthique. On ne peut pas dire qu'on ne doit pas le faire, parce que finalement, même du repérage pourrait permettre de maintenir les gens indemnes de symptômes d'Alzheimer plus longtemps. Inversement, si on commence à faire ça, on place les gens dans une situation d'anxiété, voire même de bouleversement de leur stratégie de vie. Ce qui nous fonde, c'est quand même de penser que ce que nous pensons aujourd'hui nous permet de savoir ce que nous serons dans 10 ans ou dans 20 ans. Si nous nous projetons dans 10 ans et dans 20 ans comme des déments parce qu'une imagerie cérébrale nous a montré qu'on était en train de commencer à le devenir, en tout cas que le processus biologique était là, ça bouleverse complètement même l'image de nous-mêmes que nous avons. Donc ces données, elles sont à mettre dans cette tension entre ce que nous sommes réellement et ce que nous croyons être, ce que ces informations sur nous-mêmes, au moment où nous recevons ces informations, nous disent réellement de nous et ne nous disent pas. Donc la tension éthique qu'il y a entre la confrontation qu'il y a entre le droit de ne pas savoir et puis la responsabilisation, donc en anglais empowerment ou en français capacité, mise en capacité d'agir, avec le fait que cette mise en capacité d'agir, bien sûr, dans une vision où il y a le primat de l'individu, ça permet à chacun de se déterminer, mais compte tenu de la pression économique que mettent les systèmes de santé, compte tenu de tout ce qui a été montré, je pense que on ne peut pas prendre un individu aujourd'hui hors de son contexte social. Donc, on parle d'un patient potentiel, mais ce patient potentiel, il a des enfants, il a une femme, il a un environnement, il a des amis. Ce patient potentiel, il a des collègues de travail. Et l'entreprise peut considérer, à tort ou à raison, que la pathologie de telle ou telle personne met en danger l'entreprise, surtout si c'est un de ses dirigeant ou une personne stratégique et que le fait de développer une maladie d'Alzheimer peut conduire à prendre des décisions plus ou moins biaisées ou plus ou moins mises en cause par, dans la stratégie de l'entreprise. Donc vous voyez que ça met en tension le fait de savoir de quel savoir, pour qui le savoir, et quel est le droit qui reste à l'individu dans cette chose. Donc, je résumerai ça en disant trois questions éthiques pour conclure. Le premier, c'est la première sur laquelle je reviendrai, c'est la question de l'individualisation. Et j'ai beaucoup apprécié dans l'exposé de Nicolas Postel-Vinet. Oui, il y a la possibilité d'un traitement sur mesure, mais est-ce qu'il est toujours nécessaire ? Et la question du contexte, là, est essentielle, parce qu'on veut une société du zéro défaut et du zéro risque, mais est-ce que vraiment c'est de ça que nous avons besoin ? Ou est-ce que c'est vraiment de ça que chacun d'entre nous a besoin ? Est-ce que derrière la notion de médecine personnalisée, il faut supprimer l'aspirine ? On en parlait à midi. Est-ce qu'il faut supprimer l'aspirine parce qu'elle marche trop bien pour tout le monde ? Et qu'il faut... chaque inhibiteur de COX-2 spécifique de la forme de COX-2 de chaque individu. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de la responsabilisation, parce que j'ai insisté à plusieurs reprises sur le quatrième P de participatif. Quel poids on met sur l'individu ? Quel nouveau pouvoir on lui donne ? Mais quel poids on lui donne ? Est-ce que demain, enfin aujourd'hui déjà, on voit des assurances dites mutualistes qui propose des contrats où chacun ne paye qu'au nombre de kilomètres parcourus par sa voiture. Est-ce que demain, ça sera en fonction de la consommation de sucre pour quelqu'un à risque de diabète ? Vous savez que c'est la traçabilité de la consommation aujourd'hui est quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un article dans Science il y a quelques semaines dans lequel des spécialistes des algorithmes ont utilisé comme base de données les achats faits dans un centre commercial américain au cours d'un week-end. Et sans aucune autre donnée que les numéros des cartes de fidélité, ils ont été capables d'identifier les personnes et leurs achats à partir de 4 achats faits, sans avoir aucune autre donnée que les numéros des cartes de fidélité. Il suffisait qu'une personne au cours d'un week-end ait fait 4 achats. Imaginez, vous allez avec, alors c'est pas avec vos cartes de fidélité, mais enfin, on irait acheter une baguette de pain, ensuite une boîte d'aspirine, ensuite un litre de lait, et puis finalement on met de l'essence dans sa voiture. Voilà, vous avez payé tout ça avec votre carte de crédit, on sait exactement qui vous êtes et quand vous avez fait telle et telle chose. Donc ça veut dire aussi qu'à chaque fois que vous passez à la caisse du supermarché, que vous enregistrez votre carte de client, pour avoir 70 centimes ou 1,25€ d'avantage client. La centrale d'achat, mais plus au-delà de ça, toute l'interconnexion des données, sait exactement quelle est votre consommation. Donc demain, un assureur peut aussi savoir quelle est en moyenne votre consommation d'aliments sucrés, lactés, etc. Et si on vous dit « c'est fini pour vous, vous ne buvez plus de boissons sucrées que vous le faites encore », est-ce que vous continuerez à bénéficier des mêmes systèmes de santé ? Et puis, la troisième chose, c'est évidemment la question du consumérisme. Est-ce que la santé reste cet espace protégé qui a, depuis l'aube de l'humanité, fait l'objet d'un traitement tout à fait particulier, c'est-à-dire le fait de prendre en charge la souffrance de l'autre, vers un espace de consommation qui se dilue dans cette notion générale du bien-être ? Et là-dessus, pour terminer, je voudrais vous proposer, par exemple, de réfléchir encore une fois au double sens qu'on peut avoir au mot intelligence, puisqu'on a parlé de ces objets connectés, et donc on a nos smartphones ou on a nos smart objects, etc. Le mot intelligence, c'est à l'évidence celui qu'on utilise le plus souvent, la manière d'appréhender le monde, de le comprendre et d'agir sur le monde. Mais le mot intelligence, vous le retrouvez aussi dans l'expression intelligence avec l'ennemi, ou dans l'expression de certaines agences centrales d'intelligence. La CIA, c'est la Central Intelligence Agency. C'est-à-dire cette notion de collecte de l'information. À partir de là, dans cette tension, quand on parle de médecine personnalisée, et dans cette intelligence entendue en tant que collecte de l'information, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment au profit de la personne ou au profit d'autres structures. Moi, je préférerais, pour conclure, reprendre ce que mon collègue André Grimaldi propose, c'est-à-dire au lieu de parler de médecine personnalisée, de parler de médecine intégrée. Et dans cette médecine intégrée, bien sûr, prendre en considération toutes les avancées biomédicales que nous permettent les progrès des biotechnologies, le corps numérique, etc., mais aussi se rappeler à chaque instant qu'on est face à un sujet et que ce sujet a une histoire, que ce sujet est intégré dans un espace social et que, pour revenir au mot fondamental, la médecine n'a de sens que si elle s'intéresse à ce sujet.